Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, émission un petit peu spéciale de Cœur de patrimoine, puisque Cœur de patrimoine vous emmène dans les allées de Patrimonia, ce salon qui s'est tenu il y a quelques jours à Lyon, où se réunit l'ensemble de l'écosystème de la gestion de patrimoine, l'occasion de rencontrer des patrons de chambre, des assureurs vie, quelques fabricants de SCPI. Bref, c'est un petit voyage que je vous propose dans les allées. C'est parti pour ce Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et c'est Philippe Feuille qui nous accueille sur le stand de la compagnie des CGP. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici au Cœur de Patrimonia. Cœur de Patrimoine est dans les allées de cet événement référence du monde de la gestion de patrimoine, et on va essayer avec vous, mais aussi avec vos petits camarades de la profession, de faire un petit peu un panorama de la façon dont on voit, dont se porte la gestion de patrimoine en ce moment, de l'actualité de vos différentes chambres et donc de la compagnie, et puis aussi peut-être de regarder ce que la profession peut avoir envie de dire au gouvernement, puisque on le sait, on est sur une nouvelle période. D'abord, rentrons dans 2024, qui est bien entamé. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2024 pour la gestion de patrimoine ?
Ben, écoutez, Cédric, la gestion de patrimoine se porte bien, globalement. On voit plus que jamais que l'accompagnement qui est nécessaire auprès des clients et la dimension humaine que ça peut représenter est un impact important, surtout avec tout ce qui est en train de se passer, l'absence de gouvernement pendant un certain temps et tous les propos fiscaux, patrimoniaux et autres. Donc vous doutez bien que les clients ont besoin que nous puissions les accompagner, les écouter et aussi les rassurer.
Voilà donc pour le premier constat. Comment se porte la compagnie ? Comment a-t-elle vécu finalement cette première partie de 2024 ? Quelle est un petit peu l'actualité, l'évolution de la compagnie des CGP ?
La compagnie se porte très bien, elle continue à se développer. Vous savez que notre ADN, Cédric, qui est très fort chez nous, qui est très ancré, c'est l'humain. Et on voit effectivement que nos effectifs se développent. Donc ça, c'est déjà un point positif. La deuxième des choses, pour rester toujours dans ce domaine d'accompagnement auprès de nos adhérents, nous avons décidé de mettre un certain nombre de choses en place, et notamment sur le plan régional, que nous n'avions pas vraiment jusque-là. C'est-à-dire que nous avons des ambassadeurs régionaux qui vont pouvoir créer une interaction entre les adhérents, les accompagner et justement créer encore plus cette proximité régionale qui va permettre encore plus d'asseoir la compagnie. Donc elle se porte bien. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, toujours pour essayer d'étoffer notre méthode de travail et garder cette dimension humaine, c'est de pouvoir les soulager aussi dans des démarches qui sont de plus en plus nombreuses, et vous le savez, et notamment les démarches que sont le FRACIF. Donc nous avons pris la décision cette année, pour ne pas que l'adhérent s'ennuie à remplir des tas de cases où éprouve des difficultés, eh bien tout simplement de lui attribuer un service qui lui permettra de pouvoir remplir son FRACIF. Donc ça, c'est un sujet qui me paraît très important, parce que tous les ans c'est récurrent, et là je pense que ça va soulager nos adhérents. Et enfin, le troisième sujet, nous avions notre société de formation qui était en plein essor, plein développement. Et nous avons quelqu'un donc qui a fait son master sur des modules. Et donc, hormis notre bibliothèque de formation, qui est quand même relativement importante, nous avons décidé que nous puissions constituer, à la demande des adhérents, des niches, des modules de formation sur leurs besoins, leurs attentes terrain. Et là, je pense qu'effectivement, ça va permettre de contribuer au développement et des associations et répondre surtout aux attentes des adhérents.
Alors juste revenons sur cette évolution, sur ces ambassadeurs régionaux. C'est-à-dire que c'est un point très fort, hein, et vous me brocardez souvent en me disant « faut quitter les studios parisiens et descendre en province ». Et je suis convaincu de ça, et on est ravis d'être aujourd'hui à Lyon aux côtés de la profession. Mais pourquoi, entre guillemets, maintenant avoir décidé justement d'être peut-être encore plus proche des régions ?
Ben, vous venez de, quelque part, Cédric, vous venez de donner la réponse à votre question. Ce qui me fait plaisir, effectivement, ça remonte déjà il y a quelques années, où je vous disais, ça serait bien que sur le plan régional, vous puissiez descendre. La preuve, et je suis ravi de vous accueillir sur notre stand de la compagnie CGP, cette démarche, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce décalage entre Paris et les autres villes, et je pense qu'effectivement, d'avoir des gens qui font le même métier, qui sont sur les mêmes villes, les mêmes départements, ça ne peut que créer des liens, renforcer la position des CIF, CGP et des courtiers, bien évidemment. Et vous savez que nous avons développé d'une manière importante sur les courtiers. Donc je pense qu'il y a des corrélations et des synergies qui vont faire la différence et stabiliser tout ça.
Donc, grande évolution sur cette histoire des ambassadeurs régionaux. Juste, je le disais en préambule et vous l'avez repris également, on est en période politique très particulière. On a enfin un gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe Feuille, il a un message à faire passer à ce gouvernement ?
Bah, écoutez, mon message sera toujours le même. C'est de venir sur le terrain. C'est de regarder, d'écouter les remontées du terrain, c'est-à-dire des gens qui travaillent toute l'année, qui développent, qui créent, de regarder les TPE, les PME et tout le travail qui est fait, puisque pour moi, je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est la plus grosse entreprise de France, et à partir de là, de ne pas essayer toujours de vouloir faire des gains fiscaux, successoraux, etc., parce que ça finirait par décourager tous ceux qui ont une manière d'être structurés, tant sur le plan patrimonial personnel que professionnel, et peut-être aussi d'essayer de voir comment on peut essayer de faire des économies budgétaires, parce que là, je crois qu'il y a un véritable sujet. Mais vous savez, quand c'est le chef d'entreprise qui parle, quand on investit son argent, on sait très bien qu'il faut faire très attention, et je pense que tout le monde serait inspiré d'en faire autant.
Mais quand on entend parler de retour de l'ISF, quand on entend parler d'une éventuelle suppression de l'avantage sur la résidence principale, quand on entend parler de cette question du LNNP qui pourrait être modifié, etc. Enfin, c'est une forme d'instabilité qui revient. On pensait que c'était une maladie un peu oubliée en France, non ?
Effectivement, vous avez raison. Dans le sens où ça veut dire qu'une fois de plus, celui ou celle qui a su épargner, qui a su se priver parfois aussi, qui a mis en place toute une stratégie familiale, patrimoniale, etc. C'est donc ces gens-là qui doivent être pénalisés une fois de plus au détriment d'un système qui était un système où l'assistanat ne peut pas continuer à durer. Et l'autre chose, puisqu'on parle d'égalité, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer non plus. Moi, je suis pour l'aide. Je suis pour qu'on soutienne les personnes qui le méritent. Mais à un moment donné, on sait très bien que ça devient un vice et qu'il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut que tout le monde se remette au travail. Si on ne se remet pas au travail, ben forcément, ça sera toujours les mêmes qui seront pénalisés. Pénaliser quelqu'un qui s'est privé pour créer un crédit pour sa résidence principale et lui dire maintenant, mais tu n'as plus d'avantages, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Je prends cet exemple, mais on pourrait en donner tant d'autres. Transmettre à ses enfants ou à sa famille, ça, c'est quand même l'objectif premier. Il ne faut quand même pas oublier qu'au niveau européen, la France est le pays le plus fiscalement chargé. Donc il faut peut-être arrêter et regarder surtout les économies qui peuvent être faites.
Merci beaucoup Philippe Feuille pour la compagnie des CGP. On retient cette évolution avec ses ambassadeurs régionaux, le cas particulier CIF que vous cajolez et puis bien évidemment cet accent mis sur la formation. À très bientôt.
Merci Cédric, à très bientôt avec plaisir.
Et Cœur de Patrimoine se poursuit au cœur de Patrimonia et on va rencontrer d'autres patrons de syndicats, de chambres et quelques acteurs aussi de ce monde de la gestion de patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et Cœur de Patrimoine poursuit son voyage au cœur de Patrimonia dans les allées et on est accueilli par David Charlet à l'Anacofi. Bonjour David.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Patrimonia 2024, l'année est déjà quand même très bien entamée. Quel regard le patron de l'Anacofi jette sur cette année 2024 en termes de gestion de patrimoine, bien sûr ?
En termes de gestion de patrimoine, une année qui, sur les domaines de l'immobilier, rebondit pas vraiment. Donc c'est un vrai point d'attention. Les cabinets ont l'air de tenir. On a plutôt eu des arrêts de cabinets liés à 2023. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'arrêts d'entreprises, mais on a toujours énormément d'entrants. Donc on va dire que ça semble être des années dures. Ce qu'on entend, c'est que les professionnels disent que c'est pas facile. Pour autant, les entreprises tournent. Pour autant, les entreprises qui sortent du jeu sont remplacées par des nouvelles entrantes. Donc ça fait un marché qui est en mutation avec une espèce de d'attente. C'est-à-dire que les gens attendent de savoir ce qui va se passer après, pour plein de raisons, parce qu'il y a des textes en négociation à Bruxelles, parce que gouvernement, parce que plein de choses comme ça. Donc on a cette espèce d'ambiance-là. Oh, c'est pas les meilleures années de la gestion de patrimoine, c'est pas non plus les années catastrophes de la gestion de patrimoine. On le voit ici, on est à Patrimonia, il y a du monde, ça discute. On peut dire que certaines années, il y avait pas d'inquiétude. Là, on peut pas dire ça. Quand on discute, on sent bien qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes et on n'a pas ça tous les ans, quand même. Mais on n'a pas de crise.
Alors, l'idée de Patrimonia, c'est aussi de parler de cette gestion de patrimoine et de tous les acteurs. Et les différentes associations, syndicats, chambres, etc. font partie de ces acteurs, bien évidemment. 2024, l'actualité de l'Anacofi, les changements, les évolutions, à quoi ça ressemble ?
Bah, les évolutions, elles étaient en chantier déjà depuis quelques années. L'année dernière, on a fini la réorganisation de l'Anacofi. Donc là, on vit avec, on apprend à vivre avec. Les équipes prennent leur place. Les nouveaux présidents, on est à la troisième génération, si on peut dire ça, de dirigeants de l'Anacofi. Donc il y a comme actualité la prise en main. Est-ce que chacun a amené d'évolution dans le concept, même qu'est l'association ? Une DG qui maintenant va être là depuis quasiment 2 ans, donc qui a posé ses marques aussi et ses jalons. On a des schémas qu'on réforme en termes d'animation de l'association. On a réformé tout le digital, ça c'était fini l'année dernière. Là, en termes d'animation des territoires, puisqu'en fait, on est certainement la moins parisienne de toutes les associations de la gestion de patrimoine, avec donc plus de 40 responsables de l'animation dans les territoires. Et on réforme les modèles tout en essayant toujours d'animer les territoires presque tous si possible. Le problème que l'on a, il est très simple, c'est qu'il y a moins de gens qui viennent dans le présentiel, donc il faut imaginer des formats qui sont plus attractifs et qui ne sont pas les mêmes qu'avant pour renouveler tout en gardant ce qui marchait bien. Donc c'est ça l'actualité, plus toutes les négociations. Alors ça s'était un peu arrêté cet été, mais on sait que pas mal de négociations, parce que c'est notre fonction, la représentation, sont dans notre cœur d'actualité dans les mois qui vont venir. Ça a été en début d'année, ça va reprendre là. Voilà l'actualité. Et puis l'actualité, c'est est-ce qu'on va atteindre et dépasser la barre des 8000 entreprises ou pas. L'année dernière, on était vers 7005. Est-ce que les 8000 seront enfoncés ? Bon, c'est un petit truc chiffré, c'est pas le plus important. Quand on sait qu'on s'était fixé comme objectif maximum un jour dans notre vie 6005 et qu'ils sont enfoncés depuis longtemps. Mais quand même, ça fait un petit enjeu pour toute l'équipe de surveiller les chiffres.
Alors, vous avez parlé de négociations, etc. Il y a trois fameuses lettres qu'on évoque ensemble assez fréquemment. C'est bien évidemment la RIS. Qu'est-ce qu'il faut, j'ai presque envie de dire, encore dire sur la RIS ?
Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a deux projets, enfin, il y en a trois, mais il y en a deux qui comptent, qui sont posés sur la table et qu'il va falloir les fusionner. Donc, ces textes font très peur, mais pas que au CGP. Hein. Ils font peur au monde bancaire, au monde assurantiel, au monde de la gestion, au monde du courtage, au monde de la gestion de patrimoine. Ils font même peur par résonance à des mondes comme ceux de l'immobilier, parce qu'on se dit que ce qui sera fait dans la RIS a des chances d'être copié dans d'autres domaines. Donc, ce qu'on peut encore dire, c'est qu'on attend le résultat de cette fusion des textes et que c'est pas le système des rétrocessions et donc le modèle en général des CGP qui est en risque, mais en revanche les modalités de fonctionnement des entreprises sont en risque. Alors comme on n'a pas de visibilité sur comment ça va atterrir, on sait en tout cas les cartes posées sur la table, on sait les options, mais il y a des options qui sont pas gênantes voire bonnes, il y a des options qui sont véritablement négative et encore pour rester poli. Donc c'est ça en fait. Et là on a un petit sujet, c'est que là où ça aurait dû être clos maintenant, les Hongrois ne le gèrent pas. Parce que très probablement ils sont très peu concernés, parce que la présidence de l'Union hongroise c'était peut-être pas le meilleur acteur pour gérer ça, parce que c'est pas ce qui l'intéresse le plus hein, et pas ce qu'ils connaissent le plus. Donc du coup on prend du retard. Et du coup, tout le monde reste un petit peu en train de planer en attendant de savoir où il doit ou comment ça va atterrir. Et c'est ça, en fait, notre problème de la RIS. Mais vraiment, vraiment, on sent ici que ça, c'est un des sujets qui les inquiète. Hein. Comment ça va atterrir et quelles nouvelles contraintes ?
J'ai envie de dire qu'il y a un autre endroit où on plane un peu. Ça concerne l'Hexagone et la politique. On a eu la dissolution, on a eu toute cette campagne, on a eu cet été en attente d'un Premier ministre. Ça y est, on a un gouvernement. Quel est le message, finalement, que David Charlet, au nom de l'Anacofi, bien sûr, a envie d'adresser au nouveau gouvernement ? Je vous oriente un peu dans le message. Il concerne la fiscalité. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions. On entend parler d'ISF, on entend parler de suppression ou pas de l'avantage lié à la résidence principale. On sait qu'il y a des histoires autour de la LMNP. On sait qu'il y a ces questions éventuellement de TVA, de droits de succession. Enfin, voilà. On a l'impression qu'on en avait terminé depuis des années avec l'instabilité fiscale et qu'on pourrait en remettre une grande dose. Alors je ne veux pas vous forcer à aller sur ce terrain-là, vous êtes libre de votre question ou de votre suggestion au gouvernement, David, mais voilà, c'est l'élément de réflexion qui motive, on va dire, ma question.
Bon, il y a trois domaines dans lesquels on les attend assez fortement. On pourrait en rajouter plein, mais il y en a trois qui doivent être traités très vite. Le premier, c'est qu'on parlait de la RIS il y a deux minutes. Cette RIS est en cours de négociation et maintenant, c'est à la main des États de pouvoir encore influer sur le texte. On a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il se trouve quand même que je rappelle qu'il connaissait bien le monde de la gestion de patrimoine. C'est à la base un économiste. C'est un gars de MIT. On se connaît depuis très longtemps parce qu'il est dans cet écosystème. Il faut qu'il comprenne les enjeux et que notre ministre des Affaires étrangères et de l'Europe tienne la position qui était la position française depuis un moment. Et qu'on puisse compter sur lui. Ça, c'est absolument vital. S'il ne le fait pas, de toute façon, 80 à 90 000 entreprises en France seront en danger. Donc là, on ne discute pas. Nous, ça va être dans nos priorités d'accéder à son cabinet et d'obtenir que vraiment, il tienne les rênes et il ne lâche pas les Français que nous sommes. Plus exactement, le modèle français que nous ne sommes pas les seuls à avoir et qui est un des modèles leaders en Europe, si ce n'est le modèle leader en Europe. Et il y a un enjeu en dizaines de milliers d'entreprises. Voilà. Et là, pour le coup, ça me paraît central. Ensuite, il y a un deuxième domaine qui est l'immobilier, qui est dans un état catastrophique. Et le gouvernement d'avant envisageait de prendre des décisions. Alors, bonnes ou mauvaises, il y avait plusieurs choses sur la table. Tout s'est arrêté. Il faut qu'on reprenne ça et qu'on re-rentre dans des discussions et que les choses qui soient faites soient intelligentes et aident à relancer ce marché qui est dans une situation qui est catastrophique. Oui, pour certains, c'est en tout cas ce qu'ils estiment. En tout cas,
mais au moins, on a un vrai ministre de plein exercice sur le logement.
Alors, tout à fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, faudra voir ce que signifie ministre de plein exercice avec un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement et qui pourrait n'être que technique. Mais enfin, même s'il était que technique et qu'il reprenait certains des projets, que des discussions se réenclenchent sur la base de projets qui étaient sur la table avant l'été, oui, il se passera quelque chose et il faut qu'il se passe quelque chose. Troisième point, c'est la fiscalité. Alors oui, sur la fiscalité, on est tous d'accord. Je veux dire, il n'y a pas un pays au monde où les acteurs de l'économie ne disent autre chose que de la stabilité. Un impôt correct qui génère ce dont l'État a besoin, un État qui ne dépense pas trop, et puis de la stabilité. Ce que tout le monde déteste, c'est l'instabilité. C'est dans toutes les périodes où ça a changé tous les deux ans parce que c'est trop fréquent, eh bien ça provoque quelque chose, c'est qu'en moins de deux ans, on ne peut même pas adapter un écosystème, on ne peut pas adapter les conseillers, les citoyens n'ont pas le temps de s'adapter à la nouveauté, etc. etc. Donc il y a un vrai enjeu de stabilité, et puis on parle de tellement de choses qui pourraient bouger que va falloir faire des choix s'ils veulent faire quelque chose, et il faut, s'ils doivent toucher à l'impôt, il faut toucher peu de choses et qu'elles soient efficaces. Bien sûr, nous on serait dans les positions de la NACOFI, il est écrit n'augmentez pas les impôts, hein, donc on est très clair. Maintenant, on est conscient que c'est peu probable et que si des choses doivent bouger, alors il faut qu'elles soient faites de façon intelligente et que ce soit pas tout qui bouge, pas à la De Gaulle. De Gaulle avait tout bougé quand il était arrivé pour rétablir les comptes de l'État. Bien malheureusement, là, je pense qu'on n'est pas dans une situation où on pourrait le faire. On mettrait un bazar considérable. Donc, si ça doit être sur quelques éléments, il faut bien les choisir. Il y en a qui sont stupides. Hein. Il y en a qu'il faut vraiment pas prendre. Il y a des axes comme, par exemple, réformer la fiscalité de la résidence principale. C'est une des plus immenses conneries qu'on puisse faire. Ça n'a pas de sens parce qu'en plus, ce dont on parle, ça n'est pas revenir à l'ancienne règle. Et l'ancienne règle, elle avait du sens, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, les intérêts d'emprunt pour les résidences principales étaient déductibles. Enfin, il y avait un cadre qui n'était pas simplement de dire on taxe. Voilà. Donc ce serait vraiment bête. L'ISF, c'est un impôt qui est mauvais, mais au moins il a un avantage pour nous, les CGP, c'est que dès qu'il y a ISF, il y a utilisation des CGP. Donc c'est le meilleur élément vendeur, c'est même on nous offre un commercial pour tout l'univers des avocats, des CGP, de ce que vous voulez, mais en soi, ce n'est pas un bon impôt. Pourront-ils faire l'économie de leur mettre en place vu les demandes ? On verra bien, mais de toute façon, quoi qu'ils fassent, il faut que ce soit sûr, avec peu de décisions, et il faudra ensuite, de toute façon, que ça garde une stabilité. Et puis bien sûr, il faudra que ce soit intelligent. L'ISF, tel qu'il était fait, était aussi en lui-même bête dans sa mécanique. Donc, même si on revenait à ça, nous ne désespérons pas. Si jamais tout ça se mettait en place, nous serions auditionnés. Ça a toujours été le cas, pour le coup. Mais il faudrait nous entendre, parce que nous représentons ceux qui conseillent les citoyens. Donc on a une petite idée de ce qu'ils accepteraient, n'accepteraient pas, de ce qui est un riche, ce qui est un pauvre. Voilà, j'entendais les rémunérations de ce qui est un riche aujourd'hui. Faut dire que ce qu'on entend de certaines associations, si ça c'est un riche, alors on est riche très vite, et surtout en étant un petit cadre, il faut s'en rendre compte, ou en étant un petit patron qui bosse de chez lui sans avoir de salarié. Est-ce que c'est vraiment un patron? C'est une question. Voilà ce qu'on vient taper, quoi.
Merci beaucoup, David, d'avoir accepté cette invitation et ce franc-parler qu'on apprécie toujours très nettement sur Radio Patrimoine. Donc, Cœur de Patrimoine qui poursuit son petit voyage dans les allées de Patrimonia.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Cœur de Patrimoine qui poursuit son petit voyage dans le monde de Patrimonia. Et on est à présent sur le stand de Sogénial. Et on reçoit Jean-Marie Souclier. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accorder quelques minutes dans ce grand moment de discussion, de rencontre qu'est Patrimonia. Déjà, peut-être un petit mot sur cette année 2024. Tout confondu, j'ai envie de dire. On va rentrer dans le détail après de l'actualité de Sogénial, de la CPI, etc. Mais voilà, comment est-ce que vous sentez cette année 2024 qui commence à être déjà bien tassée?
2024, ça va être un peu l'année de la remise à plat des choses. On a eu l'année 2023 très compliquée, on a eu des grosses chutes sur tous les marchés, hein. Crise économique un petit peu, pas mal de crises de taux. Et c'est vrai que 2024, c'est l'année où on sent que les choses se stabilisent, elles s'apaisent et les choses repartent finalement sur cette fin d'année plutôt à la hausse en termes de collecte. On voit les taux d'intérêt qui baissent, les taux directeurs. Donc c'est plutôt une année qui a bien commencé et qui a l'air de bien se terminer aussi.
Alors regardons maintenant ces fameuses SCPI, parce que c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup dans le monde patrimonial, dont on a beaucoup parlé, dont on a aussi déjà pas mal parlé ensemble. Il y a du mieux parce qu'on a l'impression que les nuages se sont dissipés, et puis même que dans l'ambiance globale de l'immobilier, ça va mieux. C'est le cas aussi du côté des SCPI ?
Ben c'est exactement ce que j'allais dire. Comme ça va mieux dans l'immobilier, ça va aussi mieux du côté des SCB, puisque finalement l'enjeu, c'était de ramener les gens sur l'investissement immobilier. Donc leur premier investissement, c'est évidemment la résidence principale, et on a des très bonnes nouvelles dans ce domaine-là. Ils se remettent également à investir en investissement. Alors le Pinel va se terminer, voilà, en investissement locatif, et donc assez naturellement, ils reviennent sur le marché des SCB aussi, et on voit les chiffres de trimestre en trimestre qui augmentent.
Ça veut dire que tout ce sur quoi on a glosé finalement, les prix de part, le rendement, tout ça, ça y est, c'est de l'histoire ancienne. On va repartir sur un storytelling, pour parler en bon français, qui sera plus agréable sur les SCPI, sera important pour l'épargnant aussi.
Alors je pense que c'est pas encore terminé. Il y a déjà eu des nouvelles baisses de taux de SCPI qui ont baissé leur taux de distribution, enfin leur valeur, pardon, excusez-moi, et donc monté leur taux de distribution d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui vont être annoncées a priori. Mais globalement, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a eu des expertises des patrimoines à des fréquences beaucoup plus élevées à la demande du régulateur, et que globalement sur le marché, les patrimoines tiennent plutôt bien. Il n'y a pas de baisse dans beaucoup de sociétés de gestion où c'est des baisses très minimes, et donc pas de baisse de prix de part comme chez nous. Et puis on a un deuxième élément, c'est que finalement la SCPI, c'est un produit distribution, et les SCPI distribuent, parce que finalement nos locaux sont pleins, on a des locataires, ils payent les loyers, les gens viennent pour avoir des revenus et ils ont des revenus.
Alors, on va rentrer un petit peu, parce que c'est aussi l'occasion Patrimonia de faire le point un petit peu sur les différents acteurs de ce monde patrimonial. Sogénial, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant dans votre actualité?
Alors l'actualité de Sogénial à Patrimonia cette année, c'est le lancement du fonds Immo Remploi 1, qui est un fonds de sous format Club Deal, donc accessible à partir de 100 000 euros, et qui est un fonds de remploi fiscal finalement éligible au dispositif 150-0 BTR. Et ça, c'est voilà, on était connus, nous, beaucoup pour l'actualité, pour la gestion de SCPI. Et c'est vrai qu'on gère historiquement des fonds professionnels. Et voilà, on les met un peu plus en avant cette année. On ouvre plus cette collecte de façon moins confidentielle. Et on propose aux épargnants, finalement, soit d'investir dans un fonds classique, finalement, qui va créer de la valeur par de la restructuration d'immeubles, des travaux, de l'optimisation locative, et aussi sur le co-living, parce que c'est une expertise qu'on a et qu'on développe beaucoup, ou alors de faire ça également en investissement classique, ou plutôt dans le cadre du remploi fiscal. Donc quand on a cédé une entreprise, on doit réinvestir les capitaux, on investit dans ce fonds-là, comme ça on remplit les obligations et on évite l'impôt de plus-value.
Si on prend un peu de hauteur de vue, de longueur de vue, qu'est-ce qu'il y a dans le scope, entre guillemets, de Sogénial pour les mois, les années peut-être à venir? J'imagine qu'on pilote pas le nez dans le guidon quand on voit, comme on l'a dit, l'horizon se dégager un peu.
Nous, notre fer de lance, ça restera toujours les fonds grand public. Notre gamme SCPI et GFI aussi, puisqu'on fait du forestier. Et donc, on s'appuie sur ces gammes, on les développe. On a nos deux gros véhicules, nos navires un petit peu amiraux qui sont cœur de région et cœur d'Europe. On croit beaucoup dans notre jeune SCPI qu'on a lancé l'an dernier, qui est cœur d'avenir, qui est une SCPI sur la jeunesse, 0-25 ans, qui va aller dans l'éducatif, dans tout ce qui va servir finalement aux enfants et aux adolescents et aux jeunes étudiants. Et puis on va appuyer évidemment la distribution et la gestion de nos fonds professionnels puisque c'est aujourd'hui encore une grosse partie de nos encours. Donc voilà, on se développe sur ces différents sujets. On y croit beaucoup et on veut vraiment donner du sens à l'investissement. Je l'avais dit l'an dernier, c'est vrai que c'est important pour nous. La forêt, c'était une première façon d'investir autrement que dans des produits de pur rendement. Cœur d'avenir, c'était une façon d'être en fonds de partage. Donc nous, on donne une partie de nos frais de gestion de la SCPI. Les gens peuvent donner une partie de leurs dividendes s'ils le souhaitent. Et on aura d'autres projets. On a des grands projets dans ce domaine-là dans les prochaines semaines.
Allez, dernière question un peu obligatoire, Jean-Marie Souclier, que je pose un petit peu à tout le monde. On a un nouveau gouvernement après un été passé à attendre avec un ministre du logement. Est-ce que Jean-Marie Souclier, au nom de ce génial, il a un message à adresser à ce nouveau gouvernement, à ce nouveau ministre?
Eh ben, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Finalement, je parlais de la confiance dans les SCPI. Je pense que les sociétés de gestion ont fait leur travail pour donner confiance, pour redonner confiance dans ce produit qui est un bon produit. Il faut que le gouvernement redonne confiance aux Français dans la finance, dans l'épargne, dans l'immobilier. On a un gouvernement avant qui n'aimait pas trop l'immobilier. Je pense qu'il faut se dire que c'est un très bon support de placement pour les retraites, pour tout le monde. Il faut que le gouvernement redonne confiance aux Français et dans l'immobilier particulièrement.
Message passé. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier de nous avoir accueillis et bon salon à ce génial.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Cœur de patrimoine qui poursuit son petit voyage dans le monde de la gestion de patrimoine ici dans les allées de Patrimonia. Et on est accueilli sur le stand de la CNCGP par Julien Serraki. Bonjour Julien.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accorder quelques minutes dans ce bouillonnement de Patrimonia. L'année 2024, c'est un peu la question obligée que je pose à tous vos petits camarades. On a déjà entendu Philippe Feuille et David Charlet. L'année est quand même déjà bien entamée. Vous l'avez vu comment cette année 2024 en termes de gestion de patrimoine ?
L'année 2024, elle se porte bien, mais la question et la réponse auraient été la même en 2023, 2022, 2021, 2020, mais aussi longtemps que je suis président de la Chambre. C'est-à-dire que l'industrie des conseils en gestion de patrimoine se développe de manière très importante. On le voit ici à Patrimonia, on m'a dit qu'il y avait 380 stands, c'est-à-dire qu'il y a 380 sociétés qui sont venues proposer leurs produits au conseil en gestion de patrimoine. S'il y a autant de sociétés qui sont là, c'est bien évidemment parce que le marché du conseil en gestion de patrimoine se développe de manière exponentielle. Sur les deux dernières années, on a fait un baromètre là-dessus, le chiffre d'affaires moyen d'un adhérent de la Chambre a augmenté de 25%. Donc rien que ce chiffre permet de comprendre que c'est pas lié à la conjoncture, le développement du marché de la gestion de patrimoine, c'est lié à un phénomène structurel parce qu'on apporte un service dont nos clients ont besoin. Aujourd'hui, les clients sont soit dans la banque de détail, soit dans la banque privée. Ils ne retrouvent plus forcément l'intuitu personnel, la relation humaine qu'ils avaient avant. Et avec les CGP, ils ont évidemment la compétence, c'est une évidence, mais ils ont aussi ce rapport humain très fort. Et c'est ce qui fait que les CGP gagnent des parts de marché en permanence. Ça explique la croissance du chiffre d'affaires moyen dont j'ai parlé. Ça explique un autre chiffre qu'il y a eu l'année dernière, 12 milliards de collectes des CGP de la Chambre sur les instruments financiers et l'assurance vie. C'est un chiffre énorme. Avant, quand on parlait de collectes chez les CGP, on parlait en centaines de millions d'euros. Et c'était ça il y a 5, 6, 7 ans. Après, on a commencé à parler en milliards. Et là, vous voyez, on dépasse les 10 milliards. On est à 12 milliards. On commence à parler en dizaines de milliards. C'est absolument considérable. Donc, le marché se développe et il n'y a pas de concentration du marché. Il y a toujours plus de CGP qui entrent sur le marché. Je crois qu'on en est à 6700 aujourd'hui CIF en France. C'est absolument considérable. On a 200, 300 CIF chaque année qui rentrent sur le marché. Les deux tiers, d'ailleurs, viennent à la Chambre. Et on a donc cette force vive qui se développe sur le marché des CGP. Et en plus de ce nombre d'acteurs toujours de plus en plus important, on a un phénomène de consolidation, c'est-à-dire que les acteurs qui sont présents sur le marché deviennent de plus en plus importants. Aujourd'hui, on a nos champions CGP qui ont en encours des dizaines de milliards d'euros. Et ça, c'est un phénomène aussi nouveau, mais qui ne pose pas de problème par rapport à ceux qui arrivent sur le marché, parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. On vit les années 2020 à 2030, un âge d'or des CGP, où on va chercher des parts de marché sur les banques. Et ça, c'est un phénomène qui ne risque pas de s'arrêter. Donc l'année 2024 est très bonne et elle sera certainement moins bonne que l'année 2025, qui sera certainement moins bonne que l'année 2026 et ainsi de suite pendant encore des années, des années et des années.
On rappelle pour ceux qui voudraient revoir cette étude que, bien sûr, vous étiez venu en parler dans Cœur de Patrimoine il y a quelques mois et qu'on peut retrouver assez facilement le podcast. L'actualité de la CNCGP sur cette année 2024, les évolutions, les changements, qu'est-ce que c'est ?
On a un grand changement qui arrive une fois tous les 10 ans, qui se produit en ce moment même. On est en train de déménager. Au moment même où je vous parle, les cartons de la chambre rue de Longchamp sont en train d'être déménagés dans le 17e arrondissement, à côté du parc Monceau, place du Général, 4 roues. On prend des bureaux deux fois plus grands. Il y a trois raisons à ça, en fait. C'est que déjà, on a doublé le nombre de permanents en 5 ans qui travaillent à la chambre et qui offrent des services à nos adhérents. Les juristes, par exemple, sont passés de 2 juristes à 5 juristes aujourd'hui. Ils reçoivent des milliers d'appels et des milliers d'emails de nos adhérents pour leur demander « Est-ce que j'ai le droit de commercialiser ce produit financier ? Comment je dois formaliser ma relation avec mes clients sur tel type d'investissement ?» Donc on a de plus en plus de permanents et donc on a besoin de bureaux de plus en plus grands. La deuxième raison, c'est que c'est aussi pour nous un coup de publicité, ces bureaux. C'est aussi de montrer que le marché se développe, que les CGP se développent, que l'industrie est aujourd'hui puissante en termes de solidité financière. Et donc, on a des beaux bureaux aussi pour montrer ça. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'on s'est dit, mais 70% de nos adhérents sont en province. Et tous ces adhérents ont des clients qui sont également à Paris. Et quand ils viennent à Paris, c'est pas toujours facile pour eux de trouver des lieux où ils peuvent recevoir leurs clients. Et donc, on a décidé, dans ces nouveaux bureaux, de mettre à disposition de nos adhérents des bureaux afin qu'ils puissent recevoir leurs clients dans les bureaux de la chambre. Donc on veut vraiment qu'ils s'approprient ces nouveaux bureaux.
Une forme de coworking à la chambre.
Bravo Cédric, c'est une forme de coworking à la chambre. C'est pas que pour les permanents, c'est pas que de l'administratif ou du juridique, c'est aussi des bureaux qui vont devenir des bureaux commerciaux pour nos adhérents.
Donc ça, c'est l'actualité, la grosse actualité, j'imagine, en carton de la CNCGP pour 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons, tiens, justement, quels sont les projets, finalement, 2025 de la Chambre ?
En 2025, on a décidé de s'intéresser à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, notre magazine qui sort aujourd'hui pour Patrimonia, qui s'appelle Repère, qui sort deux fois par an, traite de l'intelligence artificielle. On est allé voir nos partenaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et autres, et on leur a demandé comment, dans leur métier, eux, se servaient de l'intelligence artificielle et comment ils pouvaient mettre ces outils à disposition de nos adhérents. Et donc, en 2025, on va sortir un guide pour traiter de la fintech, mais de manière très concrète dans nos cabinets, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on utilise ChatGPT, comment est-ce qu'on utilise Mistral AI. C'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est pas juste faire des prompts et poser des questions pour améliorer des textes, il y a évidemment beaucoup plus que ça à faire, et donc on est en train de sortir un guide sur lequel on est en train de travailler pour que nos adhérents puissent s'en emparer et puissent avoir des gains de productivité.
Un petit peu sur le modèle de ce qu'avait fait Pascal Bossan.
Alors tout à fait, alors Pascal c'était sur le label ISR, c'était sur la finance durable, et donc on est en train de sortir comme ça plusieurs guides qui sont des outils pratiques pour nos adhérents afin vraiment d'augmenter la productivité de leur cabinet pour qu'ils puissent se détacher au maximum des tâches les plus redondantes, les plus administratives de nos métiers pour se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée de notre métier, c'est-à-dire le conseil.
Autre question presque obligatoire que je vous pose, Julien Serraqui, que je pose à tous vos petits camarades, c'est bien évidemment une question politique. Après un été sans gouvernement, on a un nouveau gouvernement. Quel est le message que Julien Serraqui, pour la CNCGP bien sûr, a envie d'adresser au nouveau gouvernement ?
On entend parler d'une seule chose, c'est le déficit et la dette. Évidemment, ce sont des sujets primordiaux, on l'entend très bien. Mais je crois qu'on se trompe si on analyse uniquement le prisme économique de la France et ses lacunes sous cet angle-là. Quand on voit ce qui se passe, en fait, c'est qu'en Europe et en France, évidemment, on a des idées, mais que finalement, ces idées, elles sont financées aux États-Unis et donc nos chercheurs partent aux États-Unis. Et que notre épargne, qui est la plus importante au monde, en Europe, elle ne sert qu'à acheter de la dette américaine. Donc finalement, on finance leur budget aux Américains et ils nous piquent nos idées. Et donc la vraie question à se poser, mais ça c'est une question sur le moyen terme, sur le long terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change la structure de notre épargne, comment on oriente notre épargne pour qu'elle finance notre dette, certes, mais surtout qu'elle finance nos idées. Et parce que ces idées, ça va être de la croissance économique derrière. Et c'est ça, à mon avis, le sujet dont on parle très peu. On entend très peu nos nouveaux gouvernants parler de ça, alors que le sujet, il est là. En France, on le sait, en assurance vie, c'est 2000 milliards d'euros. Sur ces 2000 milliards d'euros, vous avez du fonds euro et de la gestion obligataire qui pèse 70 ou 80%. Et puis le reste, finalement, qui est orienté vers l'épargne, mais d'une manière générale. Moi, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un avantage fiscal à financer dans les contrats d'assurance vie de nos clients la finance des entreprises françaises et européennes pour diriger cette épargne gigantesque vers le financement des idées, donc le financement de l'innovation, donc la création d'entreprises, la création d'emplois, la création de richesses, qui va permettre derrière de financer notre système social à qui nous tenons tous.
Merci beaucoup Julien. Julien Serraki, donc le président de la CNCGP, qui répondait à Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
La petite balade se poursuit dans les allées de Patrimonia et nous voilà maintenant sur le stand d'Oradeavi, accueilli par son directeur général délégué Frédéric Coin. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accorder ces quelques petites minutes. J'ai une petite question d'introduction que j'ai posée à tout le monde, histoire de prendre le pouls un petit peu de l'ambiance de ce salon, un petit peu 2024, qui est déjà bien tassé, comme on dirait. Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Quels sont un petit peu les points les plus importants que vous retenez?
Bon, 2024 a été une année tonique sur l'actualité économique, politique aussi en France, sur les marchés. Mais au final, c'est une année qui se déroule bien. Le marché, si on parle... On pense aux actions, finalement, ça se passe pas si mal. Et puis pour ce qui nous concerne, c'est une très belle année pour Oradeavi. On va faire notre record de collecte brute sur cette année, tout particulièrement parce qu'on a eu et on a toujours de très belles offres sur le fonds euro, que ce soit le taux de base servi en fin d'année dernière, comme des offres de bonus sur versement, bonus sur encours.
Alors justement, quelles seraient les grandes actualités, on va dire, d'Oradeavi en ce moment? Quels sont les points les plus marquants, ceux peut-être que vous avez abordés ici avec tous les partenaires qui sont passés?
Donc évidemment, on a nos offres actuelles de bonus sur le fonds en euros. Donc on a une offre sans condition d'UC, donc à partir de 0 UC, donc 100% d'euros, à plus 1% de bonus sur versement. Et une offre pour les clients qui ont l'envie de mettre des UC, donc à partir de 50% d'UC, avec un bonus sur encours de 0,50, plus 0,50, et un bonus sur versement de plus 1,50. Donc c'est de très belles offres, très compétitives. Et par ailleurs, on a une deuxième actualité dont on a parlé avec nos partenaires, c'est le lancement le mois prochain d'un nouvel outil digital à destination de nos partenaires CGPI, permettant la consultation des contrats, de façon complètement rénovée, très, très intuitive, très, très performante. Et on est assez contents, ça va les aider à bien travailler.
Vous les avez sentis nos CGP? L'ambiance, ils sont sereins, ils sont préoccupés. Quelle est un petit peu la prise de pouls que vous pouvez nous donner aujourd'hui?
Écoutez, il y a des interrogations forcément légitimes par rapport à l'actualité économique, par rapport à ce qui va pouvoir se passer. C'est vrai qu'on est quand même rentré depuis quelques années dans des périodes assez instables avec beaucoup d'événements venant perturber les choses, mais pour autant pas inquiets. Ils sont très connectés à l'actualité pour pouvoir bien conseiller leurs clients, bien les orienter, pas trouver particulièrement inquiets. Et puis ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur les offres de leurs partenaires pour bien servir leurs clients. Et on a des offres pour ça.
Alors, vous tendez quasiment la perche. C'est vrai que l'actualité a été bien remplie, notamment concernant la France et la politique. Alors, on ne va pas faire s'improviser commentateur politique, mais n'empêche que, est-ce que vous auriez un message, entre guillemets, à passer à ce nouveau gouvernement? C'est une question que j'ai un peu posée à tout le monde. Et c'est vrai que la fiscalité, notamment, la stabilité, etc., reste... au cœur de toutes les préoccupations. Voilà le message que vous auriez envie de passer au gouvernement.
D'une manière générale, on le sait bien, en matière économique, la confiance est clé. Et la confiance, c'est aussi avoir de la visibilité sur ce qui peut se passer. Et donc oui, la stabilité est un mot-clé en matière économique, en matière fiscale. Le monde économique, d'une manière générale, a horreur des surprises. Presque. Alors évidemment, on aime bien les bonnes surprises, mais globalement, surtout, ce qui est important, c'est d'avoir de la visibilité sur le moyen terme. Parce qu'on a des business plans, on a des exigences de rentabilité, on planifie nos investissements et pour tout ça, il faut de la stabilité, de la visibilité.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Frédéric Coin donc pour Oradea Vie dans les allées de Patrimonia.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Eh bien, on termine notre petit voyage dans ces allées de Patrimonia en rejoignant la CNCEF et Pascal Gloser. Merci Pascal de nous accueillir. Bonjour et félicitations parce que c'est une nouvelle année, une nouvelle aventure qui commence pour vous.
Bonjour Cédric, oui merci. Effectivement, je viens de prendre le mandat à la suite de Stéphane Fontuse et je m'inscris vraiment en continuité de tout ce qu'il a réalisé pour la CNCEF Patrimoine jusqu'à présent. On dénombre aujourd'hui 1546 structures à la CNCEF Patrimoine et donc en effet on va essayer de poursuivre en ce sens en continuant à aider nos membres dans leur développement, dans le développement de leurs activités et puis à contribuer à pérenniser la profession parce qu'on voit que c'est un travail quotidien.
Alors on est là en fin d'année on va dire, on est déjà mi-septembre, qu'est-ce que vous regardez sur cette année 2024 si on la regarde un peu de façon générale autour de cette idée de l'épargne et effectivement du patrimoine?
Alors sur nos métiers, je crois qu'on peut quand même se féliciter d'une part de marché qui se développe, donc la part de marché des CGP. Et ça c'est appréciable parce que ça doit être le fait depuis deux ans ou deux ans et demi. Et en effet c'est satisfaisant. Alors c'est sans doute le fruit de différents éléments, une professionnalisation des acteurs, une meilleure organisation au niveau des cabinets suite effectivement à la mise en place d'une réglementation accrue. Également, on ne peut que le constater, une concentration et la naissance d'acteurs de grande taille, mais également, et non moins important, une attractivité du métier pour des jeunes cabinets. Donc je pense que tout ceci concourt en effet à développer nos parts de marché, ce dont on peut quand même se féliciter.
Alors, voilà pour le cadre général. Si on se penche un petit peu plus sur la CNCEF, sur son actualité, sur les faits les plus marquants, les plus saillants, qu'est-ce que vous avez envie de retenir, de mettre en avant ?
Alors, c'est vrai qu'au niveau de la CNCEF, on accompagne nos membres donc pour qu'ils soient en conformité réglementaire, mais également pour qu'ils développent leur activité. Donc, il y a toutes les plateformes de formation que nous mettons en place et qui sont certifiées au service de nos membres. Il y a également beaucoup de formations sur un format un peu différent, avec des webinaires, par exemple. Et puis, un tout nouveau guide CIF qui a été créé, effectivement, à l'initiative de Paola Cargemel et qui permet aux CIF de bien... voir traduire l'ensemble de leurs obligations, quel que soit leur métier d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des fiches spécifiques pour les family office, pour les CIF, j'allais dire plus que la CIF CGP, et puis également pour tous ceux qui commercialisent auprès d'institutionnels. On en a quand même à peu près 10% au niveau de la CNCEF Patrimoine.
Il y a des grands thèmes aussi, des grands acronymes, des grands mots qui traversent un petit peu la profession. On pense à la RIS notamment, qui est très importante. Comment est-ce que vous regardez tout ça et quelles sont un petit peu les thématiques qui vous semblent les plus importantes à appuyer pour la CNCEF ?
Alors c'est vrai que la RIS, c'est un gros sujet de place, puisque, on le rappelle, c'est une initiative effectivement européenne qui effectivement vise à améliorer la connaissance, l'accès en tout cas au marché financier pour l'épargnant et l'investisseur de détail, et puis également à protéger ce même investisseur. Donc c'est vrai que ceci, c'était une démarche de 2020 qui regroupait trois volets différents. Donc, on le sait, il y a le côté renforcement de l'encadrement des rétrocommissions. Il y a le côté dont on a beaucoup parlé, value for money. Sur l'encadrement des commissions, il y avait une clause de revoyure qui était fixée à 3 ans. Sur value for money, n'était considéré initialement que les aspects, le rapport entre le coût et le rendement du produit, donc ce qui exclut toute notion plus qualitative. Et enfin, le troisième volet, c'était un benchmark qui se voulait européen sur l'ensemble des produits visés par la directive. Donc, sur ce point-là, en 2024, notamment en mai 2024, ces dispositifs ont un petit peu évolué grâce au lobbying et effectivement à tous les travaux qui ont été réalisés par les associations et également des associations intermédiaires comme l'AFG qui nous aide aussi beaucoup sur la représentation et l'AMF également. Donc ces travaux ont conduit à ce qu'on instaure la notion de meilleur intérêt du client, donc enfin une notion qualitative et pas une seule notion attachée au coût. La clause de revoyure, la fameuse, est prévue à un horizon de 5 ans et non plus de 3 ans. Pour autant, dans 5 ans, on pourra reparler du versement des rétrocessions, donc il faudra effectivement rester vigilant. Et puis le benchmark qui était prévu au niveau européen, finalement, va être mis au niveau national et sera supervisé par les autorités nationales, donc chez nous l'AMF et la CPR en fait.
Un petit mot aussi peut-être de tout ce qui est durabilité, parce que ça compte pas mal dans beaucoup de préoccupations, y compris des épargnants. Il n'y a plus qu'une question d'offre maintenant. C'est une thématique que vous abordez particulièrement.
Alors oui, c'est vrai que les épargnants ont une appétence grandissante sur ces aspects de finances durables. Pour autant, ils le connaissent assez mal parce qu'il y a 37% qui ignorent par exemple l'existence même du label ISR. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Dans ce contexte-là, on a une obligation de recueil des préférences durables de nos clients depuis le 1er janvier effectivement 2024. Donc ce qui nous conduit, comme on a des outils et des questionnaires assez élaborés, à des précisions qui sont assez détaillées. Le problème étant qu'aujourd'hui, l'écosystème n'est pas tout à fait prêt pour que nous puissions réaliser des allocations parfaitement adaptées à ces besoins très précis. Donc c'est vrai qu'on peut parler de superposition des labels, mais globalement d'une offre qui est encore une offre durable, encore trop peu lisible en fait.
Juste pour terminer, c'est aussi ma petite question gimmick que j'ai posée un petit peu à tout le monde sur Patrimonia. On a terminé avec cette phase d'attente d'un gouvernement qui nous a tenu en haleine tout l'été. On a un gouvernement, ministre de l'économie, on a un ministre du logement. Qu'est-ce qu'on a envie de dire quand on préside, entre guillemets, à la SNCF Patrimoine? Quel message on a envie d'adresser à ce gouvernement à cette période où on va fixer le cap, j'ai envie de dire.
Oui, c'est vrai que c'est une étape importante. Alors, avant tout, je pense qu'on aspire à une stabilité fiscale, qu'on a depuis seulement 7 ans aujourd'hui sur certaines distributions. Et c'est vrai qu'on aspire vraiment à ce que ceci soit respecté, puisqu'on le sait, on a des taux de prélèvement qui sont extrêmement forts en France. Donc, c'est vrai qu'on milite pour que ce soit fait avec intelligence et effectivement de sorte à ce que tout soit réellement étudié pour ne pas